cours de philosophie première par le Père Philippe à Saint-Jodard le 24 octobre 89.
La dernière fois, je vous avais montré comment, par l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, et en revenant à la réalité expérimentée, je suis ou ceci est, nous avions écarté progressivement toutes les déterminations qu'on peut atteindre immédiatement d'une manière descriptive par rapport à la réalité existante. Quand je me pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je veux saisir ce qu'il y a de premier dans l'être, dans ce qui est, du point de vue de l'être. C'est le prof de l'interrogation du Tiesti, qu'est-ce que c'est ? Donc, saisir une cause, principe. Alors, je ne reviens pas sur l'aspect négatif. On écarte la qualité, la quantité, on écarte tout. Et on aboutit à ces deux premiers. Le premier, dans l'ordre de la signification. Pierre est un homme. Je suis un homme. Et l'aspect concret, existentiel, atteint par le jugement d'existence, j'existe. Et j'existe de telle manière concrète, où ceci est aussi. Ce que, de fait, déjà Aristote appelait la substance première et la substance seconde. Peu importe le nom, c'est quand même intéressant de voir que Pierre est un homme, c'est saisir dans Pierre qui existe ce qu'il y a de premier dans l'ordre de la détermination, ce qu'il y a de premier dans l'ordre de la signification. Rien à voir de plus fondamental que homme dans la signification de Pierre. Et il ne peut rien avoir de plus fondamental dans l'ordre de l'exister. Ceci est. Mais je ne peux pas rester là, puisque je suis en face d'une dualité. La signification homme ne rejoint pas pleinement Pierre. Puisque, à côté, il peut y avoir Jacques et Jean qui existent. Et qui sont hommes. Donc, la signification a quelque chose d'universel. Dans ma pensée. Donc, je ne saisis que ce qu'il y a de commun à Pierre, Jacques et Jean. On dira, je saisis la nature. Je saisis ce qui permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui les unit très profondément dans l'être. La nature existe. L'être de Pierre est déterminé par sa nature. L'être de Jacques est déterminé par sa nature. Mon être est déterminé par ma nature. Je ne suis pas la nature humaine. Je participe à la nature humaine. Et à côté de moi, Jacques participe saisir, ça, ce que représente cette affirmation « Pierre est un homme ». Et bien saisir que nous sommes bien en face d'un premier dans l'ordre de la détermination, dans l'ordre de la nature. Et bien comprendre que dans le jugement d'existence, je saisis aussi ce qu'il y a de premier. Et je me pose, à partir de là, l'interrogation. Qu'est-ce qui est source de ces deux dans cette réalité existante qui est Pierre, qui est moi? Puisqu'ils sont deux, il y a une dualité et en même temps il y a une unité. Il y a une dualité puisque Pierre est homme, il existe. Son exister n'est pas la même chose que sa signification. Il est bien un. Oui. L'expression d'Aristote est très forte quand il dit « l'être à l'homme ». Je crois que ça, il faut bien comprendre ça. L'être à l'homme, l'être à Pierre. Il existe et il est un homme. Il y a les deux. Je ne peux pas ramener l'un à l'autre. Et cependant, il est un. S'il est un dans cette diversité, il y a nécessairement une source d'unité au-delà de la diversité, au-delà de la dualité. S'il n'y avait pas source d'unité, il y aurait une dualité, une juxtaposition, il n'y aurait pas d'unité. Oui, bien, c'est là où mon intelligence veut dépasser l'aspect descriptif pour saisir l'unité immanente à cette diversité. Le petit exemple que prend Aristote, qui est très amusant, qui est tout à fait grec, il le prend dans le livre de Zeta, au chapitre 17. Il dit « bas ». « Bas » n'est ni « bénia », il est « bas ». Quand vous apprenez un enfant à lire « bas », c'est ni « b » ni « a ». Et pourtant, c'est les deux. Alors, transposer « homme » existe. Pierre est. Le petit exemple a l'avantage de montrer le côté très simple du langage lui-même. Il y a une unité dans la diversité. Pourquoi ? L'intelligence interrogeant alors saisit la source, la cause. Il y a un principe, une cause immanente à cette dualité, à cette diversité qui explique cette unité, et c'est cela qu'on appellera l'ousia. La substance. Voyez, c'est l'intelligence qui, par l'interrogation, veut découvrir ce qui est un dans cette diversité. Étant donné, alors précisons bien, étant donné que homme est existé, tous les deux sont être à leur manière. Tous les deux expriment quelque chose de ce qui est. C'est pour ça que je dis, comprenons bien, le to einai anthropo, l'être à l'homme. J'existe autrement si j'existe comme homme ou si j'existe comme canard. Mon exister n'est pas celui du canard. Le canard a quelque chose que je n'ai pas dans l'ordre de l'exister. Et en même temps, l'exister exprime autre chose que la signification homme. Oui. Donc, je saisis dans l'être et dans l'être dans ce qu'il a de premier, puisque je ne peux pas aller au-delà de homme dans la signification. Je ne peux pas aller au-delà de existe. Je ne peux pas aller au-delà de ceux qui existent dans l'ordre de l'exister. Donc, dans l'ordre de l'être, je suis en face de deux points ultimes. Ils sont deux et ils sont un. Il faut donc une source d'unité dans l'ordre de l'être. C'est pour ça que je dirais que cette cause et ce principe, ces causes et principes, l'ousia c'est cause, selon la forme de ce qui est. Oui, selon la forme, puisque j'interroge du côté de la détermination. L'induction consiste à découvrir l'au-delà de la dualité et en même temps dans l'immanence de cette dualité, la source, le principe que l'intelligence cherche. Là, vous allez dire, mais il n'y a peut-être rien du tout. Alors je dis non, c'est impossible, puisque les deux sont un. L'intelligence saisit le point de vue de la nature qui ne peut pas s'identifier à l'exister, puisque Pierre existe, j'existe. Pierre existe comme homme, j'existe comme homme. Donc mon exister n'est pas identique à homme, puisque homme existe en moi, il existe dans Pierre. Donc mon exister n'est pas adéquat à homme. Et homme a ce privilège de pouvoir exister dans plusieurs et exister a aussi ce fait qu'il est unique dans chacun. Il y a donc quelque chose qui fait cette unité au-delà de homme, au-delà de exister. C'est le premier dans l'ordre de l'être. Puisque homme existe. C'est une réalité. C'est pas seulement je l'exprime par la signification, mais la signification exprime quelque chose de propre de l'être. Manière d'être que d'être un homme. C'est pas simplement une signification, c'est-à-dire une intentionnalité. C'est une manière d'être. Et exister, évidemment, n'est pas du côté de l'intentionnalité, je le saisis dans un jugement. Vous voyez, comme c'est très curieux, je vois là comment mon intelligence est toute tendue vers la réalité en tant qu'elle existe. Mais mon intelligence ne peut pas saisir intuitivement l'être, puisqu'elle le saisit par la détermination homme, l'appréhension, et qu'elle le saisit par le jugement exister. double manière de m'approcher de l'être. Je peux aller plus loin et je peux comprendre que grâce à cette interrogation où j'essaie de saisir ce par quoi cette diversité est une, et je saisis alors à ce moment-là, grâce à l'induction, le principe. Autrement dit, je le prends ici du côté critique, étant donné qu'on est là devant quelque chose de tout à fait nouveau, ce qu'on appelle l'induction, l'épagogé en grec, l'intelligence qui cherche, oui, le chien de chasse. C'est l'exemple que donne Platon. Par l'interrogation, mon intelligence est en arrêt. Il y a là du gibier. Qu'est-ce ? Je saisis les deux extrêmes, homme existait, et puis j'essaie d'aller au-delà de la dualité pour découvrir la source cachée. Une source est toujours cachée. Le principe. Donc je vois là que dans mon intelligence, j'ai appréhension, jugement, l'appréhension saisit homme, jugement saisit ceci est, et les deux unis, puisque toujours dans ceci est, homme est présent, c'est sûr, et vient ajouter quelque chose de plus. L'homme existe dans le ceci. Et je saisis alors la source, le principe, la cause. C'est de mon intelligence qui veut analyser pour écarter les deux et saisir ce qui est au-delà des deux. Mais c'est une analyse. Une analyse qui distingue. Elle ne sépare pas. Parce que je ne peux jamais saisir la cause à l'état pur. Je la saisis toujours dans son effet. Et l'effet de la cause, c'est de faire que l'exister et la substance ne sont un. Ils sont un dans la cause, c'est-à-dire dans l'ousia. Donc il y a là, par l'induction. Il y a trois moments d'intelligence, voyez. Un, deux, trois. Et c'est vrai, l'induction, c'est un raisonnement, c'est un mouvement de l'intelligence qui veut aller plus loin que ce qui est donné directement. Que je saisis directement. Je touche l'exister. Je saisis sa détermination première, homme. Et mon intelligence est en fait pour l'être. Et c'est là où on voit très bien comment l'intelligence est en fait pour l'être, ne peut pas s'arrêter à la dualité dans l'être. Bon. Je peux maintenant essayer de prendre une autre voie. Ça, je crois que c'est la voie la plus rapide. Celle qui s'impose fondamentalement. Homme existait. Étant donné la difficulté de l'induction, je peux toujours essayer. C'est celle que prend Aristote, ça, dans le livre de Zeta. Je la simplifie, hein, parce que Aristote d'abord écarte dans le livre de Zeta. Il faut lire le livre de Zeta au moins deuxième et troisième année. Première année, non. Dans le livre de Zeta, Aristote écarte tous les premiers. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Quel est le premier dans l'être ? Il montre que le premier dans l'être n'est pas le premier de la forme. N'est pas le premier de l'intentionnalité, l'universel, n'est pas le premier dans l'ordre de l'exister individuel. Que le premier dans l'être ne peut être que ce qui m'est donné à travers et au-delà du B.A., c'est-à-dire au-delà de l'existé immédiate et de la signification. Puisque l'être est source de toute signification et que l'être par lui-même existe. Il demande d'exister. Puisque celui qui n'existe pas n'est pas en acte. Donc, on voit comment l'être comme tel commande le dépassement de la signification et de l'exister. Je peux maintenant prendre une autre voie pour que nous arrivions à mieux saisir. Je pars de moi-même, toujours, de ce que je suis. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être en moi ? Je détermine en moi, ceci présuppose évidemment la philosophie du vivant. La philosophie du vivant, elle est antérieure à la métaphysique, donc j'ai parfaitement le droit de m'en servir. Dans la philosophie du vivant, j'ai découvert que j'étais âme et corps. Au niveau de la vie. Ce vivant que je suis implique une âme. Ce vivant que je suis implique un corps. On verra ça à propos de la philosophie du vivant. On peut le saisir assez facilement, parce que vous pouvez saisir l'intériorité et l'extériorité. Première fois que vous vous regardez dans la glace, il y a une dualité qui s'est établie en vous. Vous avez compris comment les autres vous regardaient. Et vous avez été stupéfait. Parce que vous avez remarqué que les autres ne vous regardaient pas comme vous-même vous regardez. Des yeux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient ? Moi je les regarde, mais je les vois autrement. Ce phénomène de l'intériorité, de l'extériorité, qui est le grand moyen pour nous de saisir l'âme et le corps. On ne peut pas nier qu'il y ait une intériorité. Elle va plus ou moins loin, mais une intériorité. Je peux penser, je peux aimer sans que personne ne le voie. Quand je pense la tête entre les mains, quand j'aime en mettant ma tête entre mes mains, personne ne me voit. Et moi je vis, et de l'extérieur on croit que je dors. Donc intériorité, extériorité. Qu'est-ce qui fait l'unité ? Puisque je suis un, je n'en doute pas. C'est une distinction que je fais ici. C'est pas une séparation. J'ai jamais constaté que mon âme pouvait se séparer de mon corps. Si vous l'avez fait, si vous avez déjà eu cette expérience, que votre âme se séparait de votre corps, vous me le direz. Hein. Ça m'intéresserait beaucoup. Ce serait un phénomène très particulier. Dans les rêves, ça peut arriver. Pour les psychanalystes, ça fait partie de quelque chose de très particulier. Mon âme s'évade de mon corps, et puis je fais des voyages, et puis je reviens, mon corps reste là, tranquille. arrivé, on peut très bien rêver ça. C'est pas arrivé, c'est partie des rêves, d'une nostalgie, n'est-ce pas ? La nostalgie de l'âme séparée. Il vaut mieux pas trop y penser. Mais normalement, votre âme, elle est dans votre corps. Vous distinguez les deux. Et vous avez l'unité. Qu'est-ce qui fait l'unité ? Ouvrez une lettre. Qu'est-ce qui fait votre unité, quoi ? Vous avez tous l'impression que votre âme, c'est vous, et votre corps, c'est vous. Si on vous marche sur les pieds, vous dites « aïe, aïe, respecte-moi quand même hein. ». Si on vous prend un petit couteau et puis qu'on l'enfonce, vous dites « non, respectez-moi, c'est mon corps ». On le dit spontanément, c'est mon corps, c'est mon âme, c'est moi. J'existe dans l'unité. Donc l'âme est distincte du corps et l'âme est capable d'assumer le corps. Elle fait les deux. Au niveau comme principe de vie, elle est distincte du corps. Et c'est ce qui lui permet d'avoir certaines opérations purement intellectuelles. Je pense. Et quand je pense, autant que possible, mon corps est tranquille. Si mon corps s'agite de trop, ça m'est très difficile de penser. Faites la gymnastique. C'est pas à ce moment-là que vous penserez l'être. Faites du foot. C'est pas à ce moment-là que vous allez penser l'être. Si votre corps s'agite de trop, impossible. Vous laissez votre corps reposer. Les humeurs, comme disaient les anciens, ça doit se reposer. Et là, à ce moment-là, votre âme émerge. C'est curieux. Vous pouvez penser ce qui est l'universel. Point de vue des opérations. Quand vous prenez votre petit déjeuner, votre âme est très présente dans votre corps. Puis vous goûtez. Oh, aujourd'hui, oh là là, pas très bon ce café. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans ? Le lait, il est toujours de la vache, là, c'est plus pur. Tandis que le café, il a passé par déjà pas mal de transformations. Vous voyez, votre âme est présente dans votre corps, vous voyez. Donc, au niveau de la vie, il y a distinction. Au niveau de l'être, unité. Alors, mon âme est à la fois source de distinction et source d'unité. En tant qu'elle est source d'unité, elle est substance. Et vous commencez à saisir mieux ce que c'est que la substance. C'est plus concret que tout à l'heure. Hein. Oui. Parce que vous saisissez votre âme. Votre âme, c'est votre substance, quoi. Cherchez pas une autre substance que votre âme. Elle est votre substance, mais elle est substance de votre être. Elle est cause de votre être. Et en tant qu'elle est source de vie, elle est distincte de votre corps. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une diversité au point de vue de la vie, il y a l'unité au point de vue de l'être.
Mais au niveau de la vie, même s'il faut distinguer divers états, il y a une certaine unité.
Ah, une certaine unité, et il y a une très grande diversité. Et j'ai parfaitement le droit ici de regarder la diversité. Et l'unité est beaucoup plus profonde. Vous voyez ? Au point de vue de la vie, il y a une certaine unité, parce que c'est toujours vos opérations. Vous voyez ? Alors vous avez le droit de regarder cette unité de votre vie et de l'ordonner. Le matin, j'assisterai à un cours, c'est ma vie. Le matin, je prendrai mon petit déjeuner, c'est ma vie. Le matin, je travaillerai personnellement, c'est ma vie. J'ai le droit de faire ça. Bon, quand vous faites le petit tableau de vos organisations de la journée, vous êtes au niveau de vos diverses opérations. C'est vous. Et vous pouvez aller plus loin. Et vous pouvez regarder qu'il y a l'unité d'exister en vous. Mais c'est pas la même chose. Votre âme peut être principe d'unité de vie parce que la vie provient de votre âme. Toutes les opérations vitales proviennent de votre âme. Si vous creusez un peu, parce qu'un biologiste dira « Mais non, toutes les opérations vitales, c'est le corps. » Vous direz « Non, c'est pas mon corps, c'est mon âme. » Alors vous aurez l'induction de l'âme. Mais quand vous induisez l'âme, vous n'induisez pas l'âme premièrement comme substance. C'est une autre induction. C'est pour ça que j'ai le droit de me servir de cette distinction âme et corps qui a été donnée dans une autre induction. J'ai le droit de me servir de résultat de cette induction à mes corps pour dire c'est très bien ça, c'est très vrai, ce sont deux principes distincts, mais il y a une unité d'être. Or, au point de vue philosophie première, je regarde l'unité d'être. Je dis à ce moment-là, l'âme n'est plus source de vie, elle est source d'être. Et vous avez le droit à partir de là de dire « Ma vie, c'est mon être. » Pourquoi votre vie, c'est votre être? Parce que l'âme est source à la fois de vie et source d'être. Et c'est deux considérations différentes. La mort vient mettre une scission dans votre vie. Elle ne vous annihile pas. Mais votre vie humaine est brisée. La mort se situe à quel niveau? Niveau de la vie. La mort ne se situe pas au niveau de l'être. Heureusement. Il n'y a rien d'annihilation. Il n'y aurait même pas une petite poussière. La mort, c'est une brisure dans l'ordre de la vie. C'est les modernes qui disent que la mort est au niveau de l'être, parce qu'ils ne distinguent pas vie et être. Et si je suis un peu conscient de ce que je suis, je fais la distinction entre la mort, qui est une brisure dans l'ordre de l'être, et puis ce que représente le point de vue de mon être. Vous voyez ? Mon être substantiellement n'est pas atteint par la mort. Tandis que ma vie substantiellement est atteinte par la mort. Vous ne pourrez plus te prendre de petit déjeuner après la mort. C'est quand même important. C'est substantiel votre vie, quoi, petit déjeuner. Alors, je reviens à ça, et c'est très important, ça fait comprendre la différence entre la vie et l'être. Et je vois alors à ce moment-là que mon âme est vraiment substance de cette unité dans l'être. Mon âme, c'est ma substance. Et quand vous dites que votre âme est ma substance, vous voyez bien que c'est la source de l'unité. Je peux, pour mieux comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, l'âme, elle est quoi? Mon âme est principe de signification. Mon corps est un corps humain quand il est habité par mon âme. Et toute l'intelligibilité de mon corps au plan philosophique, vient de mon âme. Et mon âme est en même temps source d'être. distingue les deux. Mais mon âme fait l'unité. Et donc elle est bien principe d'être. Mais vous saisissez autrement substance première et substance seconde. Mais quand je dis qu'elle est principe de signification, c'est très vrai, mais en tant que principe de signification, elle implique le corps. Mais le corps n'a sa signification que par l'âme. Et quand elle est principe d'être, elle implique aussi le corps. Mais le corps n'existe que par l'âme. Donc là, je saisis bien la distinction entre les deux. Et même la séparation possible. Donc vous voyez, prenez toujours ces deux inductions. Ça vous aide à comprendre. Parce que c'est une induction capitale, celle-là. Découvrir qu'il y a un autre là. Vous voyez que homme est substance. C'est-à-dire que je dis que âme est substance. Parce que vous voyez là tout de suite la distinction entre les deux. Homme n'est pas substance. Pourquoi ? Parce que homme est saisi selon un mode universel. Et la substance est principe dans l'ordre de l'être. Donc, ce qui est saisi sous un mode universel ne peut pas être principe d'être. Parce qu'il est saisi selon un mode d'intentionnalité. Il est saisi comme source de signification et pas source d'être. Autrement, je tomberai dans l'ontologisme qui identifie l'intentionnalité et l'être. Troisième petite induction dans l'ordre de l'amitié. Oui.
Ce qu'on fait, c'est qu'on peut ramener si mon âme est ma substance, disons si là, si en moi, mon âme s'identifie à ma substance.
Oui. Je ne dis pas que votre âme s'identifie à votre substance, je dis votre âme est votre substance.
Oui.
Vous voyez ?
Et pourquoi on ne peut pas ramener la substance à l'âme ?
Parce que les raisons de se poser le problème, je ne le posais pas pour pas compliquer, mais je peux dire toute âme est substance et toute substance n'est pas âme. Pourquoi ? Parce que tout être n'est pas vie.
Mais on n'induit pas la substance dans toutes les réalités.
Alors, autre question, savoir, y a-t-il substance en dehors de l'âme ? Oui, ça c'est une autre question. Vous voyez, prenons ça. J'ai donc substance et âme. Comment je définis la substance ? Je dis cause selon la forme de ce qui est. Et c'est pour ça que j'ai pris, vous avez remarqué, cette première induction, je n'ai pas parlé de l'âme. Je suis resté au niveau des déterminations que je pouvais tout de suite saisir quand j'ai essayé de comprendre ce que c'est que Pierre. L'âme, cause propre du vivant. Et je dis, mon âme est non seulement cause propre du vivant, mais de ce qui est en moi, de ce que je suis. Je ne peux passer de l'un à l'autre. Mais je saisis d'abord l'âme comme principe propre du vivant, de ma vie. C'est qu'ensuite, ayant découvert la substance, je peux dire qu'elle est substance. Alors, je me pose la question, est-ce que toute âme est substance ? Est-ce que toute substance est âme ? J'ai parfaitement le droit de me poser ça. Question d'extension, de signification. Je dis, la substance a sa signification au niveau de l'être. Et l'âme, sa signification au niveau de la vie. Donc, être, vie. Je ne peux pas identifier les deux. Je ne peux pas dire tout ce qui est en tant qu'il est vie. Mais je peux dire tout ce qui vit en tant qu'il vit est. Vous êtes bien d'accord avec ça ? Vous n'avez jamais vu un vivant qui n'existait pas. Ce sera affolant. Donc, tout ce qui est en tant qu'il est mais ne vit pas nécessairement. La lune existe, elle ne vit pas. Je vis en tant que je vis, j'existe. Tout vivant en tant qu'il est, tout vivant en tant qu'il vit est. La vie étant tout simplement une manière plus parfaite d'exister. J'existe comme vivant, et vous aussi. Donc c'est une manière plus parfaite d'exister. Je vois des degrés différents dans l'ordre de l'être. Esse vivere intelligere. Exister, vivre, penser. Trois niveaux dans l'ordre de l'être. Et c'est quelque chose de tout à fait universel. Le vivere a quelque chose de moins universel et l'intelligere a quelque chose d'encore moins universel. Il y a moins d'êtres qui pensent que d'êtres vivants. Et il y a moins d'êtres qui vivent que d'être qui existe. On peut tous saisir ça. Hein? Par le fait même, si l'âme est source de vie, et que la substance est source d'être, puisque l'être a une universalité plus grande que la vie, nécessairement, la substance a donc une signification plus pénétrante que celle de l'âme. Oui, c'est ça. Je peux.
Il y a que dans la personne où l'être s'identifie avec la vie.
Oui.
Et ça peut être une raison pour laquelle on peut identifier la substance, pas identifier.
Parce que la vie n'est qu'une manière d'exister. La vie, c'est une manière parfaite d'exister. Oui. C'est pour ça que je ramène exprès à être et vie. Qu'est-ce que c'est que la vie ? C'est une manière particulière d'exister qui fait que le vivant est capable d'assimiler ce qui est extérieur à lui. Tandis que je ne dis pas que l'être, en tant qu'il est capable d'assimiler un autre être. Autrement, le soleil assimilerait la lune. L'être peut être matériel. La vie, comme vie, est toujours au-delà de la matière. L'entropie, le point de vue vital. L'être peut être matériel. Je ne peux pas dire que la vie peut être matérielle. Le vivant peut assumer le corps, mais c'est la vie qui assume le corps. Tandis que l'être, il est matériel. Oui. Il y a donc, dans le point de vue de l'être et dans le point de vue de la vie, deux significations différentes, mais qui ne s'opposent pas, puisque l'être est quelque chose de plus fondamental, de plus radical. Et la vie implique une qualité qui n'est pas exprimée explicitement dans l'être. Mais l'être contient la vie.